d'abord les organisateurs pour m'avoir à genoux. En effet, c'est un sujet que j'ai entrevu il y a maintenant près de 20 ans, lorsque je faisais mon master en relations internationales à l'Université du Kent à Canterbury, puisque en Grande-Bretagne, ainsi qu'outre-Atlantique, outre-Baltique également, enfin dans beaucoup d'autres pays, les relations internationales sont une discipline universitaire propre. En France, c'est une sous-branche des sciences politiques ou une pièce rapportée du droit international public. Je suis toutefois juriste et juriste français, donc ce qui fait que vous aurez un plan en deux parties et deux sous-parties. Et donc, si je suis de la faculté de droit courant, en revanche, je ne suis pas du CEJ, mais dans des autres centres de recherche, le Credo, centre de recherche et droit de l'homme, et le droit international. Donc j'ai le même terme et la théorie des relations internationales. Dans un ouvrage fondateur pour la théorie postmoderne des relations internationales, James Gerberian, en 1989, écrit qu'il y a 200 ans, un peu plus maintenant, les relations internationales ont commencé avec une révolution et une note de braquage. La révolution, vous savez évidemment de laquelle il s'agit, et après avoir entendu hier un exposé de Jacques Louvresse, évidemment, je ne commenterai pas dessus. En revanche, la note de bas de page, c'est celle « Introduction to the Principles of Morals and Legislation » où, ça vient de vous rappelé, Jeremy Bentham substitue à « Law of Nations » « International Law ». Mais aussi, il crée dans cet ouvrage le terme « relations internationales ». Alors pourquoi? Comme le rappelle le professeur Dario Battistella dans un ouvrage qui s'appelle « Théorie des relations internationales », c'est parce qu'à cette époque, on ne peut plus parler de droit des gens. Le droit des gens réglait à l'époque l'Empire romain et de la fiction qui ensuite a perduré avec l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, des rapports entre sujets intégrés, hiérarchiser les différents souverains par rapport à l'empereur, voire au pape. Mais en 1789, ces relations, ces interactions transfrontalières qui se sont largement développées à l'époque où Bentham écrit, ont radicalement changé. Maintenant, ce sont des rapports entre souverains. Donc, ceci explique le terme relations internationales. Alors ce terme de relations internationales est à la fois un objet et à la fois, si ce n'est une science, du moins un objet d'étude, une discipline universitaire. Pourtant, la discipline universitaire des relations internationales est une fille indigne. En effet, elle ne rend pas Bentham l'hommage qu'on aurait pu attendre de celui qui a inventé le mot. Au mieux, on souligne l'apport terminologique, mais ça peut créer. Pourquoi? Certes, Bentham naît par rapport aux penseurs qui se sont interrogés sur les relations internationales. En fait, n'est pas un créateur, un continuateur. Il se situe dans ce qu'on appelle l'école rationaliste, c'est-à-dire celle qui commence, c'est arbitraire certes, mais il faut bien prendre un point de départ, avec Grotius, se poursuit avec Locke, Montesquieu, les pères fondateurs de la Constitution américaine, Edmund Burke, par exemple. Dans cette théorie rationaliste, les relations internationales sont simplement un échange entre relations diplomatiques et commerciales institutionnalisées, continues, organisées entre États souverains. Alors, bien entendu, cette approche statocentrique est évidemment aujourd'hui considéré comme dépassé. Pourquoi? Parce que les organisations intergouvernementales sont apparues à la deuxième moitié du 19e siècle, et surtout après 1945, que les relations transnationales, c'est-à-dire entre les individus, se sont énormément développées, et que, bien entendu, il y a un phénomène de mondialisation. Donc, on pourrait penser que Bentham n'a plus de pertinence aujourd'hui puisqu'il décrit un monde dépassé. Et pourtant, Bentham par rapport aux théories des relations internationales. En apport, dans la mesure où Bentham a quelque chose à dire sur les relations internationales, qui demeure pertinent et qu'il est évidemment pris dans un contexte intertextuel, qu'il est cité ou parfois évoqué plus implicitement au renfort de différentes théories, voire de différentes praxis. Alors, quels sont les écrits de Bentham ? Et ceci explique que notre extravagant gentleman soit aussi peu cité actuellement. Ils sont assez parcellaires. Vous avez une compilation d'opuscules qui s'appelle Principles of International Law, qui comprend en fait 4 textes, et je me focaliserai surtout sur le plan pour la paix universelle et perpétuelle. Et le texte publié à part, Émanciper vos colonies. Alors, point de vue méthodologique, j'ai travaillé, sauf un moment, vous verrez une citation tirée de Bentamania, essentiellement sur l'édition Bourgogne. Je sais qu'il y a une querelle quant à l'utilisation des sources, je préfère l'indiquer. Donc, une œuvre finalement sur les relations internationales assez succincte par rapport à tout ce qu'il a pu dire. En plus, évidemment, ça a déjà été dit, c'est dit à titre posthume, ça a été reconstitué, ce qui fait que déjà que le style benthamien est assez lourd, il est parfois parfaitement incohérent, on a l'impression qu'il manque des pages, ou il manque un paragraphe, entre deux paragraphes, parce qu'on ne voit pas vraiment le lien entre ces deux paragraphes. Néanmoins, une théorie internationale benthamienne, une théorie des relations internationales benthamiennes émerge de ces textes. Alors, théorie, non pas au sens de système d'explication de ce que sont les relations internationales, ce qui était à l'époque Bentham, les relations internationales, mais théorie au sens d'un modèle de ce que les relations internationales devraient être. En effet, contrairement à ce qui se passe pour la théorie du droit benthamienne, la théorie benthamienne des relations internationales est prescriptive et non pas descriptive, ce qui m'amènera à m'interroger ensuite, après vous l'avoir présenté bien entendu, à m'interroger sur sa valeur holistique. Donc tout d'abord, une théorie plus prescriptive que descriptive. Alors, Bentham, il faut le replacer dans son contexte. Bentham est anglais. Et il appartient à cette théorie rationaliste, j'ai cité notamment Newburn, etc. Et la liberté qui l'anime est une liberté évidemment à l'anglaise, qui se dissocie de la liberté à la française, même si effectivement il fut citoyen français. Alors, la vignette que vous avez sous les yeux est une vignette d'époque, enfin 1792, tirée de la presse anglaise. Ce n'est pas un dessin de Bentham, mais je ne pense pas qu'il puisse désavouer. Et compte tenu de la place qu'il accorde, l'importance qu'il accorde à la presse, je pense que c'est intéressant d'avoir une sorte d'iconographie. Bentham, donc, est un libéral, au sens anglais du terme, qui est guère différent d'ailleurs du sens français, mais sa conception de la liberté, donc une conception fondée sur la propriété, bien sûr, sur le commerce et la prospérité, pas une liberté un peu évanescente, un peu totémique à la pauvresse. Donc une conception anglaise de la liberté. Ses œuvres sont un plaidoyer libéral qui manifeste une confiance dans l'opinion publique et une méfiance envers les institutions. Tout d'abord, un plaidoyer libéral. Les idées de Bentham, comme je vous l'ai dit, sont essentiellement contenues dans le plan pour une paix universelle perpétuelle. On a pu qualifier le tract économique, qui accuse donc le colonialisme d'être le principal obstacle au libre commerce et donc à la stabilité internationale, donc la paix. L'abandon des colonies amènerait donc la paix, mais surtout l'abolition de la diplomatie secrète amènerait la paix et une politique de maîtrise des armements pourrait alors être entreprise. Ce sont 3 points que je vais détailler. Tout d'abord, le colonialisme obstacle au commerce, donc à la paix. Bentham, j'en ai jamais dit, est contre la colonisation. Ce qu'il reproche, entre autres choses, à la colonisation, c'est son caractère belligérant, si vous me permettez ce jargon politiste. Ouais, c'est surtout, en bon épicier, que la guerre est mauvaise pour le commerce. En effet, sa position se résume dans l'aphorisme suivant. Tout commerce est par essence avantageux, même pour la partie pour laquelle ce serait moins avantageux, tandis que toute guerre est par essence ruineuse. Il faut donc supprimer le colonialisme, ça coûte cher et c'est dangereux. En effet, le colonialisme oblige les États à entretenir des marines puissantes pour protéger leur colonie de commerce. Plus l'argent va à la construction de bâtiments de guerre, moins il sert à des investissements productifs. Si les nations européennes se débarrassaient de leur colonie de commerce, elles supprimeraient les conflits sur leur propre sol, mais aussi dans leur possession coloniale. Elles pourraient réduire la taille de leurs forces armées, la taille de leur gouvernement et la pression fiscale, bien entendu. Elles libéreraient ainsi le capital national pour l'investissement dans l'industrie, dans le commerce, y compris outre-mer d'ailleurs. Bref, tout le monde aurait gagné. Alors, cette position anticolonialiste est tout à fait dans la logique du libéralisme. Même Raymond Aron, grand libéral mais fort peu décolonisateur, le note dans son ouvrage majeur de la théorie des relations internationales qui est Paix et guerre entre les nations. Le libéralisme parfait se donne par hypothèse une république universelle des échanges. Idéalement, par rapport à l'unanimité et globalement, il n'y a qu'un seul commerce, que la force militaire des États est impuissante à modifier. Fin de citation. Et d'ailleurs, Aron cite ensuite quelqu'un. Mais toutefois, l'argument économique n'est pas le seul contre les colonies. En effet, la colonisation tend aussi à produire des atrocités, qui sont d'autant plus, et là on rejoint le domaine pénal, qui sont d'autant plus difficiles à réparer du fait de l'éloignement de la métropole. Et Bentham, en bon empiriste, a en mémoire l'interminable procès de Warren Hastings, qui était un ancien gouverneur général du Bengale, jugé pour des crimes qui avaient été commis au Bengale, et qui s'était éternisé en procédure. Alors attention, Bentham est anticolonialiste, mais il ne faut pas le confondre avec Hans Fanon. C'est un colonialisme malanthropo. Il exclut les Indes britanniques des territoires décolonisés. Il est contre les colonies de peuplement, ou plus exactement, souhaite que les colonies de peuplement, peuplement européen bien entendu, s'émancipent. Mais en revanche, il demandera à la France de renoncer à ses frontières des Indes pour les remettre à l'administration britannique. On sait que terrible principe plutôt que les colonies, et il ne sera pas suivi. Pareillement, il demandera à l'Espagne de renoncer ses colonies aux Amériques, quitte à ce qu'elle conquiert plutôt la barbarie, ce qu'on appellerait aujourd'hui la fin du monde. Alors il est vrai qu'il dira, vous pourrez conquérir la barbarie, toutefois je vous le conseille. Donc, attention à l'anticolonialisme de Bentham. Michel Onfray, d'ailleurs, lui reproche de ne pas prendre en compte la situation des colonisés, mais simplement le point de vue du colonisateur. C'est mieux pour la métropole de se débarrasser de l'outre-mer. Mais, en ce qui concerne les colonies qui ne sont pas des colonies de peuplement, le contrôle de territoires non chrétiens, on peut les conserver, non pas pour des motifs religieux, non pas pour une hypothétique mission civilisatrice, mais tout simplement pour éviter l'anarchie propre à ces peuplades qui ne savent pas se gouverner. Donc, abandon des colonies, sous les réserves que je viens d'indiquer. Deuxième point tout à fait libéral, et à ma connaissance, c'est un des premiers, c'est pas forcément le premier, mais un des premiers à l'avoir si bien indiqué, l'abolition de la diplomatie secrète. Un État doit, sous le contrôle de l'opinion publique informée par la presse, mener ses relations extérieures en toute clarté. Le secret diplomatique ne sert qu'à enrichir une minuscule élite. Il n'a donc pas lieu d'être. sera un peu longue. Mais le ministère des Affaires étrangères, donc est le ministère qui entretenait entre tous les autres, devrait avoir les systèmes de contrôle les plus sophistiqués, mais il se trouve que c'est celui qui aurait la plus grande opacité, le plus grand secret. Et selon Mandam, il suffirait donc de supprimer ce voile de secret sur les procédures du ministère des Affaires étrangères pour mettre fin au rôle pernicieux de ce secret, à cette opacité qui va donc être l'origine d'alliances dangereuses, pour que sous contrôle de l'opinion publique, les relations internationales deviennent pacifiques. En d'autres termes, Bentham s'intéresse moins au problème des institutions supranationales qu'à l'analyse des relations qui existent entre la politique étrangère et les citoyens au sein d'un État. Cette abolition de la diplomatie secrète a aussi pour conséquence de pouvoir mener à, et c'est un, à mon sens, les premiers à l'avoir imaginé, la renonciation concertée aux armements. Alors, je m'appuie ici, vous voyez plus de détails bien entendu dans la version écrite, sur la thèse de Gunnli Lobensen, qui était d'ailleurs pareil, sous un thème, sous un titre différent publié de commerce, qui montre que Bentham est à l'origine de ce qu'on appelle dans notre jargon des relations internationales la maîtrise des armements, arms control en anglais, Bentham n'emploie pas le terme arms control, qui est en fait non pas du désarmement, c'est-à-dire supprimer les armes parce qu'elles auraient un rôle néfaste, mais une relation concertée entre partenaires pour accepter de diminuer les arsenaux dans certains domaines considérés sans rompre l'équilibre militaire qui existe. Et ça, bon, ce sera repris notamment à partir des années 1960 dans la pratique, quand on constatera que les tentatives de désarmement qui ont été entreprises seront des échecs. Mais surtout, ce qui est très libéral, c'est bien entendu la confiance en l'opinion et inversement donc la méfiance envers les institutions. Alors, dans le plan pour une paix universelle et perpétuelle, vous avez guère d'aspects institutionnels détaillés, mais le temps se concentre surtout sur la substance. Pourquoi ? Ben, c'est surtout parce qu'il n'aime pas trop les institutions, il ne trouve pas que ce soit le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la substance des relations internationales, et pour lui, la substance des relations internationales, il appelle de ses voeux, il existe à l'époque, c'est le rôle que doit jouer l'opinion publique. Bentham, en d'autres termes, contrairement aux autres plans qui ont pu être proposés, ne propose pas un gouvernement mondial, mais en revanche, est un des premiers à instituer, enfin, proposer d'instituer une juridiction internationale, appuyée sur l'opinion publique, bien sûr, et aussi, mais ça c'est à l'intérieur des États, mais ça en rapport avec les relations internationales, bien sûr, appelé à la création d'une armée composée de citoyens. Refus d'un gouvernement mondial, tout d'abord. Un de mes professeurs de l'Université de Kent le rappelait, donc Bentham est loin d'être l'avocat d'un gouvernement mondial. Donc il aurait pu l'être s'il avait pensé que c'était nécessaire. Mais en bon utilitariste, il pense que, et en bon libéral, il pense qu'il ne faut pas trop de gouvernements. Le meilleur des gouvernements, limite, n'est pas le gouvernement du tout. C'est un cosmopolite, ça vient d'être rappelé, je ne détaille pas. Donc il ne veut pas de gouvernement. D'autant plus que, je renvoie aussi aux travaux très éclairants qui furent, il y a près de 50 ans, rédigés par Huxley, il cherche à ce qu'il y ait le moins de gouvernement possible et il a peur, ça c'est un gentleman. Bentamania qui a trouvé, que la communauté des nations, en fait, dans un gouvernement international, n'établisse qu'une tyrannie mondiale. Et il ressent le danger d'un gouvernement international. Donc il veut des structures internationales très faibles, principale institution qui appelle de ses voeux, je l'ai dit, c'est la juridiction internationale. Avec l'opinion publique comme bras. Alors pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas un tiers des partiteurs, tant qu'il n'y a pas un tribunal, autant que le monde soit pas faux amis, tant qu'il n'y a pas une juridiction commune, il peut y avoir la guerre. Mais il suffirait d'établir une juridiction commune et il n'y aurait plus de nécessité de se faire la guerre. Puisque, juste ou injuste, la décision de l'arbitre, donc, s'appliquerait, tout en sauvant la face d'ailleurs à la partie qui succomberait, puisqu'elle n'aurait pas été défaite militairement, elle n'aurait pas perdu son honneur, mais simplement, une simple querelle technique, juridique, aurait été évitée comme ça. Alors, quelle est cette juridiction internationale? Alors, la terminologie est très flottante, il parle de congrès des États, il parle également de diète des États, ça dépend des traductions, ça dépend des versions, etc. On a du mal parfois à savoir s'il veut un congrès avec à côté une juridiction ou si ce serait une seule et même chose. Bref, ça dépend aussi à quel moment il réfléchit. En tout cas, ce serait plutôt une sorte de tribunal arbitral qu'un directoire mondial. Pour prendre des exemples actuels, c'est plus que modèle de la Cour permanente d'arbitrage que le Conseil de sécurité. Et donc, tribunal arbitral parce qu'il n'y aurait pas de pouvoir coercitif. Selon le professeur Mario Tello, dans son ouvrage sur qui s'appelle Relations internationales et une perspective européenne, publié aux éditions de l'Université de Bruxelles, en fait, ce tribunal arbitral déploierait ce qu'aujourd'hui on appelle la soft law. Alors, la soft law, donc en anglais, mais en droit international, c'est une sorte de droit latent qui est en passe de devenir du droit positif. L'exemple, c'est généralement les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, ces décisions de l'instance arbitrale devraient être évidemment amplement diffusées dans le public, et la presse, bien entendu. Et les opinions publiques de chaque pays se mobiliseraient évidemment pour que le droit triomphe et pourraient suffire à mettre l'État réfractaire au banc de l'Europe. Certains ont noté d'ailleurs qu'ils parlent d'universalité, mais c'est limite à l'Europe. Je crois que c'est contradictoire. Alors, Bentham, à un moment, envisage la force, alors, non pas une armée internationale, mais une coalition ad hoc d'États qui proposerait leurs propres armées, mais agirait individuellement. Toutefois, il trouve que finalement, la meilleure arme est la liberté de la presse dans chaque État. Ce qui, évidemment, fait beaucoup rire les penseurs qui réalisent au sens de la théorie des relations internationales, au sens de la théorie du droit, qui généralement ils sont. Donc, c'est l'opinion publique dans chaque pays, mais tous les citoyens sont en fait, en même temps évidemment des citoyens du monde, qui doivent faire triompher la justice en mourant. En revanche, il est beaucoup plus réaliste, alors là, pragmatique si vous voulez, pour prévenir l'aventurisme militaire par la réorganisation des forces armées. Alors, si effectivement il est iréniste en fait et pas pacifiste, mais pas anti-militariste, il pense que la défense est évidemment une justification de la guerre, et il dit clairement que l'objection des Quakers, vous savez sans doute que donc, la société des amis, c'est ainsi qu'ils s'appellent, sont aux origines du pacifisme moderne, sont contre toute guerre. Donc l'objection des Quakers ne tient pas. Au contraire, si Bonaparte avait eu des nations Quakers en face de lui, évidemment, il en aurait profité. Alors d'ailleurs, c'est assez incohérent, cette sorte de réalisme, de défaut, pour reconnaître le rôle de la défense et dire que Napoléon aurait tiré parti des nations quaker et en même temps ne pas proposer de moyens coercitifs pour son tribunal international. Donc, il veut une armée qui, alors, certes, serait constituée pour partie de professionnels, dans la mesure où les technologies imposent quand même qu'il y ait un certain nombre de spécialistes, mais serait majoritairement composée de citoyens. Selon Gunhild Bundelsson, c'est une combinaison assez originale des idées de Machiavel et d'Adam Smith. C'est une armée, alors apparemment vous allez vous dire, c'est le modèle suisse. Effectivement, ça ressemble beaucoup à ce qui existe en Suisse, mais Bentham prend bien soin de dire que ce n'est pas une armée de milice. Et d'ailleurs, Gunhild Bundelsson s'interroge, si ce n'est pas une armée de milice, qu'est-ce que c'est? Ce sont des citoyens volontaires, qui participent volontairement à la défense. Je pense que Bentham devait penser à l'exemple des yeomen qui existaient en Angleterre, qui étaient donc les sujets britanniques volontaires, qui n'étaient pas des militaires professionnels, mais des gens qui acceptaient de servir temporairement dans l'armée, ce qui d'ailleurs perdure mutatis mutandis aujourd'hui dans l'armée territoriale britannique. Cette prévention contre les armées professionnelles n'est pas une originalité de Bentham, c'est réaliste. Je l'ai dit, mais c'est aussi dans l'air du temps. Si vous prenez par exemple les constitutions de la Pennsylvanie et de la Caroline du Nord, vous avez cette disposition selon laquelle les armées permanentes en temps de paix sont dangereuses pour les libertés et qu'il ne faut pas donc, ils ne faut donc pas en entretenir. Et si vous regardez l'article 1er, paragraphe 8 de la Constitution des États-Unis, vous voyez que si le Congrès a l'obligation de maintenir une marine de guerre. En revanche, il ne peut pas autoriser plus de 2 ans une armée. Alors, vous direz qu'effectivement, depuis la création des États-Unis, tous les 2 ans, le Congrès autorise une armée, etc. Ça n'empêche pas qu'il y ait une armée permanente de fait. Mais il y a cette idée qui est, à l'époque, de ne pas vouloir. Alors, c'est très lié, bien entendu, avec l'histoire anglaise. Dans l'histoire anglaise, j'inclus évidemment la décolonisation américaine. C'est bien entendu très lié à l'histoire anglaise. Mais il ne faut pas l'armée permanente. Alors, si Bentham ne décrit pas le monde qui existe, mais propose ce qu'il devrait être, on peut se demander quelle est son utilité de son approche pour la science des relations internationales. Alors, pour la description, elle est nulle, évidemment. Donc, qu'en est-il pour l'action? Comparons brièvement le plan de Bentham avec les projets de l'abbé Saint-Pierre, l'abbé Saint-Pierre et d'Emmanuel Kant. Alors, pour ceci, je m'appuie essentiellement sur les travaux d'un chercheur italien, Archibugi, qui a publié donc étude il y a quelques années maintenant dans la revue d'études internationales, mais aussi sur les travaux plus récents qui m'ont beaucoup inspiré de notre collègue Peter Nissen sur une comparaison entre Kant et Bentham. Alors, je vais vite compte tenu du temps, dans le modèle de l'abbé de Saint-Pierre. Vous avez un modèle qu'Archibugi qualifie de pyramidal. C'est-à-dire qu'à la base, vous voyez donc en bas les sujets des différents États. Ensuite, vous avez les souverains et en haut, l'Union internationale. La Grande Alliance chez l'abbé Saint-Pierre, puisque le terme international n'existait pas à l'époque aussi. C'est le modèle des organisations intergouvernementales telles qu'elles existent actuellement. C'est-à-dire que les membres de l'Union sont les États qui font écran entre les citoyens. Il n'y a aucun rapport entre l'Union et les citoyens. C'est les États représentés égalitairement, là-bas c'est un État, une voix, bien entendu, qui fondent cette Union internationale. Donc vous n'avez pas de rapport avec les citoyens. tout un modèle assez sommaire. L'abbé de Saint-Pierre, on le sait, était pourtant un réformateur social, mais ce modèle repose sur le principe implicite, bien sûr, il ne fait pas expliquer de Saint-Pierre, de subsidiarité. Vous n'avez donc un écran de l'État entre les citoyens et l'Union. Non-ingérence, l'Union ne s'intéresse pas, enfin, elle est compétente pour les cas où il y aurait une régence, ou éventuellement les cas de guerre civile, parce que ça perturbe l'ensemble du système, mais sinon elle n'intervient pas dans les affaires qui sont de la compétence essentiellement nationale, pour paraphraser la Charte des Nations Unies, dans l'État. Parce que Saint-Pierre considérait que les réformes à l'intérieur des États sont souvent stoppées par les guerres. Donc si on met en place une structure qui va rendre la guerre impossible, les réformes pourront continuer à l'intérieur. Mais l'Union internationale n'a pas à s'ingérer, je disais, dans les États. Le deuxième modèle, le troisième que présente Archie Buguet, mais moi je le présente dans cette position, et c'est Emmanuel Kant qui appelle le modèle cosmopolite. Alors là, c'est plus complexe. Vous avez à la fois une assemblée cosmopolite et une assemblée des États. Vous avez les citoyens des États et les gouvernements des États. Les membres de cette fédération, cette assemblée cosmopolite, sont donc non plus, ou pas exclusivement les États, mais également les citoyens. Cette assemblée des citoyens qui doit déterminer en quelque sorte les bases du droit cosmopolite, tandis que l'Assemblée des États est plutôt compétente pour trancher les litiges seulement entre les États. Mais vous avez donc, bien entendu, un droit qui s'impose, un droit produit par l'organisation internationale qui va s'imposer dans les États aux citoyens, les citoyens ayant des représentants. Donc, c'est très sommairement le modèle d'inspiration de l'Union européenne, un peu celui des Nations unies d'ailleurs, enfin, non pas de l'organisation des Nations unies entre elles, mais des agences, des institutions spécialisées des Nations unies qui font intervenir notamment la représentation des ONG. D'ailleurs, par anecdote, certains datent la fin de la guerre froide d'un discours d'Edward Shevardnadze, qui était ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, ou à la tribune de l'ONU, qui va citer non pas Marx comme d'habitude, mais le projet de paix perpétuelle d'Emmanuel Kant. Alors, Bentham, lui, propose un modèle qui est moins sophistiqué, qui est un modèle dit diffus, où vous avez donc une sorte de fédération internationale et des États, mais avec au centre des citoyens. Ce sont les citoyens qui vont influer sur la fédération internationale. Ce qui compte, c'est le rôle dévolu aux citoyens beaucoup plus qu'aux États. Les États gardent quelques compétences, mais véritablement, ce sont les citoyens qui sont au cœur du dispositif. Alors, ce n'est pas le seul à proposer un tel type de modèle. Hein. Saint-Simon, justement, qui s'est évoqué ce matin, a un modèle à peu près de même style. William Penn avait déjà entrevu quelque chose de ce type. Bref, vous avez un modèle centré sur le citoyen plutôt que sur l'État et qui est beaucoup plus souple que le modèle quantique. L'un est britannique, l'autre est allemand, la souplesse est assez logique. Toutefois, bien que Bentham soit, selon Michel Onfray, l'anti-Kant absolu, Bentham et Kant partagent beaucoup d'idées communes, notamment l'idée, alors qu'on peut trouver simpliste, que les démocraties ne font pas la guerre. Ou plus exactement, ce que nous apprend l'idée les démocraties depuis 1816, définir aussi ce qu'on appelle une démocratie, mais bon. Disons les régimes représentatifs, les régimes républicains au sens kantien, ne se font pas la guerre entre eux. En revanche, contre les dictatures, ils ne sont ni plus ni moins belliqueux que les dictatures entre elles. Le côté pacifique des régimes républicains entre eux étant pour bon nombre d'observateurs, dont Thomas Lescapan, fondé sur des critères psychologiques que je n'ai pas le temps de développer ici, mais que vous retrouverez évidemment dans la version écrite. Ce qu'il convient de souligner surtout, c'est que contrairement à l'égalitarisme de la fédération kantienne, Bentham propose, et le justifie par rapport à son électorat, un système qui conserve l'hégémonie britannique. C'est une sorte de sécurité collective. Et Serge Sûr a eu l'occasion de dire que la sécurité collective servait en fait à canaliser l'hégémonie. Un système donc de maintien de la paix fondé sur une puissance hégémonique. Qui n'est pas mauvaise en soi. Peter Nixon, justement, dans l'article que j'ai cité, précise que ce qui est dangereux pour la paix, ce n'est pas le fait qu'un État ait une puissance militaire supérieure aux autres. C'est le fait que plusieurs États puissent rivaliser en puissance. Mais si vous avez une puissance hégémonique, c'est pas grave, ça peut pas parfaitement répondre aux besoins de la paix. Alors c'est beaucoup plus proche de l'école réaliste que de l'école idéaliste, bien entendu. Et ça annonce, ça justifie la Pax Britannica du XIXe siècle, évidemment, la Pax Americana actuelle. C'est un modèle, en termes cosmoniens, plus apologétique, finalement, utopique, ce qui explique que ce soit bien reçu dans les pays anglo-saxons, et beaucoup moins bien dans les pays qui ne sont pas britanniques. Alors, quelle est l'influence de la postérité des idées de Bentham? Alors, chez Lumil et chez certains libéraux, vous avez une continuation. La plupart d'entre vous le savent, le fameux article dans l'encyclopédie britannique de James Mill en 1820. Bon, c'est principalement de la reprise avec évidemment une plus grande clarté d'exposition. Mais c'est ce fiston qui est plus intéressant. Qui, d'une part, dans un article de 1862, va en fait théoriser ce qu'on appellera ultérieurement l'intervention de l'humanité, c'est-à-dire qu'il est contre l'intervention dans les pays étrangers, sauf s'il s'agit de mettre fin à des actes de barbarie. C'est en quelque sorte le grand-père du droit d'ingérence. Là aussi, ample référence dans la version écrite que je ne développe pas. Bentham aurait pu être le père du droit d'ingérence. Il avait un temps, en 1822, sollicité l'intervention des États-Unis d'Amérique à Tripoli pour protéger justement la population locale contre les exactions de son despote. Alors il avait demandé aux États-Unis d'intervenir parce que justement les États-Unis étaient neutres dans la course à la colonisation qui s'enclenchait plus ou moins. Et donc évidemment ils ne pouvaient. C'était neutre par rapport à une intervention qu'il aurait pu solliciter de la France ou de la Grande-Bretagne, bien entendu. Mais surtout ce qui est assez intéressant par rapport. Proposé il y a quelque temps les néoconservateurs américains, c'est qu'ils prédisaient aussi un effet domino qui allait conduire au renversement de tous les satrapes du Maghreb. C'est à peu près ce qu'on nous a vendu pour le grand Moyen-Orient. Faisant tomber le régime irakien, on allait subitement avoir dans tout le bassin méditerranéen et au-delà des démocraties qui allaient émerger. Sinon, John Stuart Mill va quand même rompre avec Bentham, avec des idées qui n'auraient certainement pas été vues. C'est ainsi que dans La Liberté, il va proposer la propriété commune des matières premières. Idée qui va être reprise par un grand libéral anglais, John Hobson, généralement assez connu du public français, qui en 1902 a écrit une étude sur l'impérialisme. Je dis bien que c'est un libéral qui sur l'impérialiste en 1902, donc avant que le petit père Ulianov fasse la sienne. John Hobson considérait que les bénéfices du libre-échange ne seront profitables à tout le monde qu'à la condition qu'existe un gouvernement international qui serait chargé de la régulation des relations commerciales internationales et du contrôle du développement des ressources mondiales dans l'intérêt de l'humanité. C'était évidemment très en avance sur son temps, sans pas qu'il suivit bien entendu, et ça annonce certains débats contemporains. Alors, je suis bien William Lack, donc je passe. Norman Engel est généralement la cible des réalistes qui est en gros assez bentamien dans la mesure où il pense que l'intégration économique conduit à la paix. Et Norman Engel a écrit d'ailleurs qu'aujourd'hui, les économies de l'Angleterre et de l'Allemagne sont tellement imbriquées qu'une guerre entre les deux pays apparaît comme impossible. Le seul ennui, c'est qu'il écrivait en 1912. Donc évidemment, les réalistes donnent un cœur de joie de taper sur Norman Engel. Sinon, évidemment, un des héritiers de Bentham, du moins présenté comme tel, est un professeur de sciences politiques américain, Woodrow Wilson, qui fut aussi connu pour d'autres fonctions qu'il exerçait ultérieurement, et à l'occasion desquelles il développa un point, enfin, le fameux discours des 14 points, et fut un des principaux artisans de la rédaction du pacte de la Société des Nations, même si justement il a pu constater la justesse de ses analyses sur le système américain qui qualifiait de gouvernement congressionnel, puisque comme vous le savez, le Congrès des États-Unis s'opposera à ce que les États-Unis participent à l'ESD. Alors aujourd'hui, quels sont les héritiers de Bentham? On en trouve un peu partout. Et surtout son rôle principal de Bentham, c'est d'avoir annoncé, c'est le premier, le rôle de ce qu'on appellerait aujourd'hui la société civile, le rôle de l'opinion publique. Mais aussi, il a des héritiers plus indirects, en truchement de mille, John Stuart, dans l'école Wall Street, qui, eux, se préoccupent surtout, dont les penseurs s'occupent surtout des besoins humains fondamentaux, et considèrent que ce qui est utile, finalement, c'est de satisfaire les besoins fondamentaux, la réflexion sur les relations internationales, doit être une réflexion sur la société mondiale et comment résoudre les besoins des citoyens du monde. Marginalement, vous avez une branche, vous avez une fraction du mouvement altermondialiste, qui peut être considéré comme bentamien, ceux qui proposent qu'à une aide infantilisante, voire néocoloniale, on substitue un commerce véritablement libre, et que les produits du tiers-monde puissent accéder à la forteresse européenne. C'est évidemment toute la rhétorique sur le contrôle citoyen de l'OMC. On est en plein dans le schéma bentamien, même si aussi d'autres personnes avec d'autres bases philosophiques peuvent s'y reconnaître. Je ne dis pas que Bentham a tout inventé. C'est évidemment la libération animale, c'est aussi les droits des homosexuels. Donc une postérité entre autres dans cette société civile, dans le mouvement altermondialiste. Mais aussi, ça a déjà été dit, également, alors, est-ce un héritage, une captation d'héritage, les Chicago Bulls. En tout cas, un chercheur français contemporain, Agnès Kounounos, auteur de La morale dans les relations internationales, sous-titré « Rendre des comptes »,